Radio Kapi.
Lueur d'espoir pour les populations de l'Ituri. Après environ 20 ans d'atrocités de groupes armés, le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation vient d'être lancé à Bunia. Programme lancé par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, et l'invité de ce journal. Trois agents de l'ONG concernent enlevés hier dans le massif au Nord Kivu. Il s'agit d'un énième cas d'enlèvement des humanitaires par des hommes armés. Les FARDC sont dans les trousses des ravisseurs, assure l'autorité coutumière, sans donner plus de détails. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations, Cannes-Cameroun 2022. La compétition démarre demain jusqu'au 6 février prochain. 24 nations y participent, reparties en 6 groupes. Mais la RDC n'y prendra part car éliminée de la course. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation a été lancé vendredi par le vice-ministre des Affaires étrangères à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Plusieurs autorités militaires, dont le gouverneur, les administrateurs des territoires, ainsi que les acteurs politiques et de la société civile, ont pris part à cette cérémonie. Selon la majorité des participants, ce programme, longtemps attendu, augure de l'espoir d'une paix durable dans cette province, après environ 2 décennies d'atrocités des groupes armés, plus de détails avec Isaac Remoyope.
Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, le lancement de ce programme marque une nouvelle ère et la détermination du gouvernement de la RDC pour l'instauration d'une paix durable en Ituri. Cela après plusieurs années de souffrances et violences, lesquelles violences ont comme conséquence le meurtre des milliers de civils, mais aussi des militaires et des partenaires, dont des soldats de la MONUSCO et les déplacements de près de 2 millions de déplacés. Il a exhorté toutes les couches sociales représentées dans cette cérémonie à accompagner ce programme.
Nous avons tous l'obligation d'appuyer cette initiative de paix entreprise par le premier citoyen de la République.
Pour les participants, ce programme était attendu par la population depuis plusieurs mois. Les coquistes et chefs coutumiers du territoire des Djougou souhaitent que cette 4e phase de désarmement soit la dernière pour la réinsertion communautaire de tous les combattants qui détiennent illégalement les armes de guerre en Ituri. Innocent Madoukadala.
Nous sommes très heureux du lancement de ce programme. Nous, les populations ituriennes en soi, ont besoin de l'Ituri sans armes. Qu'on ne puisse pas revenir encore à d'autres étapes de désarmement. Donc il faudrait que ce 4e soit la fin du processus de désarmement en Ituri.
Signalons que la province de l'Ituri compte une dizaine de groupes armés locaux, dont la CODECO, la FPIC, la FRPI, ainsi que des groupes de Mai Mai. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours dans le cadre du programme DDRCS, son coordonnateur national, Tommy Tambwe, a lancé vendredi à Bunia un atelier de réflexion stratégique et d'échange en faveur des représentants de toutes les couches sociales. Tommy Tambwe précise que l'objectif de ces assises est de contextualiser et de matérialiser ce programme pour la recherche d'une solution durable au cycle des violences dans l'Ituri, situation qui dure depuis la réunification du pays en 2003, mais les groupes armés sont rester actif malgré les différentes phases de désarmement et démobilisation. Le coordonnateur national du programme DDRCS s'explique au micro de Isaac Remoyope.
Au cours de cet atelier de réflexion et d'échange sur le PDDRCS, le souhait de la coordination nationale est de vous voir vous appliquer sérieusement en apportant des idées innovantes sur le point clé du programme. La question importante est de savoir pourquoi, depuis 2003, les groupes armés continuent à exister dans cette province de l'Ituri. Et donc, il nous revient, à travers cet atelier, de réfléchir en profondeur sur les causes et de chercher nous-mêmes, à travers une recherche et action, sur les solutions idoines adaptées au contexte iturien. Le résultat de cet atelier va contribuer à la mise en place de la stratégie pratique d'opérationnalisation du PDDRC dans les provinces, territoires, secteurs et villages. Mais surtout, ils vont enrichir le draft de la stratégie nationale qui est déjà en préparation et qui sera présenté en janvier à toutes les parties prenantes, donc devant le gouvernement et devant le partenaire à la stabilisation, le bailleur des fonds et à toute la communauté internationale.
Plus de 500 personnes, dont des autorités militaires, administrateurs des territoires, députés nationaux et provinciaux, ainsi que des organisations de la société civile, participent à cet atelier de 2 jours. Dans l'actualité aussi, le lancement jeudi 6 janvier à Kikwit des activités du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle, c'est Jean-François Roubota, ministre de développement rural, qui a procédé au lancement. Ce projet concerne 7 provinces dont le Kwilu, le Kwango, le Congo central, le Maïndombe et le Kasaï central. Il va impacter positivement 500 ménages. Le ministre a ajouté que ce projet se situe dans le contexte du développement de la RDC à la base. François Roubota le dit à Blaise Makassi Nandes.
Le projet va impacter sur 500 000 ménages. Si je prends une moyenne par ménage de 6 personnes, cela voudrait dire que le projet va impacter positivement 3 millions de personnes à travers les 7 provinces. Dans le monde de circonstances, le secrétaire général, vous l'avez suivi, parler de la durabilité du projet pour une période de 6 ans. Nous avons probablement déjà perdu une année et demie, si pas 2 ans. Donc nous avons un retard énorme que nous devons combler. Vous êtes en train de suivre le président de la République parcourir les provinces. Dans son discours, il martèle sur le développement à la base à partir de 145 territoires. Et ce projet s'inscrit dans le programme du gouvernement en ce qui concerne le développement à la base.
Et puis, l'exécution de la loi des finances 2021 en RDC a été marquée par l'aggravation des pratiques de corruption, l'affaiblissement des institutions à caractère social et l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques. C'est ce qu'a déclaré hier à Kinshasa le président de l'Observatoire de la dépense publique ODEP lors de la publication de son rapport sur la gestion des finances publiques. Pour Florimond Mouteba, 80% des décaissements ont concerné les rémunérations en lieu et place des investissements. Pendant que les institutions phares ont vu leurs dépenses exploser, les dépenses sociales, elles, visant principalement l'amélioration des conditions sociales de la population, ont été faibles, a dit le président de l'ODEP, Florimond Mouteba, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le rapport que nous avons l'honneur de vous présenter à ce jour représente la situation de janvier à septembre 2021. À ce titre, le contexte de l'exécution de la loi de finances 2021 a été marqué par l'aggravation des pratiques de corruption. Le Parlement, temple de la démocratie, a été transformé en temple de la corruption. Incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques suite à son dédoublement par la présidence de la République, où certains conseillers ont assuré les fonctions des ministres sans aucun fondement juridique. Ces dépenses en dépassement sont justifiées par les recours à de mauvaises pratiques de gestion. La présidente de la République a augmenté le nombre de son personnel de 455 en 2018 à 1018 en 2021. Les bureaux de l'Assemblée nationale rémunèrent 2756 membres du cabinet, hormis les 500 députés. Les bureaux du Sénat rémunèrent 880 membres des cabinets, hormis les 109 sénateurs. La primature paye 606 personnels politiques affectés dans les cabinets du Premier ministre. Des inégalités sociales sont également perceptibles dans la répartition des ressources tirées par l'État. Les métiers les plus marginalisés restent l'enseignement.
Direction le Nord Kivu. Encore un cas d'enlèvement des humanitaires par des hommes armés sur l'axe Masisi. 3 agents de l'ONG Concern ont été enlevés hier dans la matinée par des hommes en armes. Cela s'est passé sur l'axe Sake-Kichanga, village Luonga, groupement Kamuronza. L'autorité coutumière de la région affirme que les FARDC sont allés aussitôt à la poursuite des ravisseurs sans donner plus de détails. Le récit de Sifa Maguru.
Les sources locales, notamment le chef des groupements et la société civile, indique qu'il s'agit de 2 Congolais et un expatrié qui se rendaient en mission à Kichanga lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade d'hommes en armes qui les auraient conduits en direction du parc national de Virunga. Jusque-là, l'ONG Concern n'a pas encore communiqué officiellement. Néanmoins, son chargé de sécurité, joint par la presse locale, a promis de réagir. La société civile de la région demande aux autorités de prendre des mesures plus adéquates pour mettre mettre fin au kidnapping devenu courant sur cet axe de Masisi. D'autres sources se demandent comment expliquer ces enlèvements en répétition alors que Masisi connaît un trafic intense ainsi que des unités de FARDC déployées sur les axes. Rappelons que deux autres agents du CICR avaient été kidnappés dans les mêmes circonstances le 30 novembre 2021 et relâchés 11 jours plus tard, sans compter les braquages et enlèvements des paisibles citoyens, déplore la société civile. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, cette fois dans le territoire de Walikale. La situation sécuritaire est préoccupante dans plusieurs axes, notamment la région de Mutongo, groupement Iana. Les combattants des deux ailes du NDC rénové s'affrontent à nouveau depuis hier matin pour le contrôle de Mutongo. Un élu local pense que l'absence de l'armée dans plusieurs zones de Walikale est à la base du regain d'activisme de ce groupe armé. Dans un communiqué rendu public hier, Prince Kiangi s'est dit préoccupé par ces affrontements enregistrés à plusieurs endroits et qui causent mort d'hommes et des déplacements massifs de la population. Le député provincial Prince Kiangi est au micro de Sifamagourou.
Depuis le matin de ce 7 janvier 2022, les deux ailes du groupe armé Nduma Defense of Congo s'affrontent à Mutongo, le chef-lieu du groupement Ihana, en secteur de Wanyanga dans le territoire de Walikale. L'aile Bwira est venue de Kilambo, de Luibo, c'est dans le territoire de Masisi, que comme il faut le savoir, Mutongo, depuis plus de 5 ans en tout cas, n'est pas contrôlé par un seul élément de vos armées de la République. Que donc il n'y a pas l'autorité de l'État à Mutongo, c'est soit Guidon qui contrôle, c'est soit Bwira qui contrôle. Hier, c'était à Rusamambu, c'était à Bukumbirwa, c'était dans le groupement Ikobo, dans le groupement Kisimba, dans le Usala vers Oninga. Nous demandons que les forces armées de la République puissent se déployer dans toutes ces zones en proie à l'insécurité et à la déstabilisation. Mais en même temps, nous demandons à ces jeunes de bien vouloir déposer les armes et à continuer avec le processus de paix qui a déjà été entamé depuis un temps avec la reddition de certains de leurs éléments.
Pour sa part, le porte-parole de l'armée appelle la population au calme et rassure quant aux opérations de traque de tous ces groupes armés. Dans l'actualité, sachez aussi que Sa Majesté Ngwangwa Mintou Pierre a été désigné et présenté comme nouveau président de la Commission nationale d'arbitrage des conflits coutumiers en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu hier à Kinshasa. Sa Majesté Ngwangwa est chef coutumier du groupement de Bateke Sud, chef-lieu d'Oumou, territoire de Kwamout dans la province de Maïndombe. La première mission lui confiée par l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, c'est de faire voter une motion afin d'obtenir une loi parlementaire faisant état de la coutume congolaise, une institution autonome. Cette annonce a été faite par le chef Wilbert Kyungu, président de la NATC. Wilbert Kyungu est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Nous avons les dossiers contentieux en commençant par le groupement IO, groupement Nguma, Kikimi 1, Kimwenza, Lutendele et autres à Kinshasa comme province pilote avant de descendre dans toutes les provinces. Et nous remettons encore les dossiers qui est en permanent pour le moment danger venant des territoires de Kabalo, de Manono, dans le secteur Kamalondo, Akitanda, que le président de la commission des droits de l'homme vient de dénoncer qu'il y avait vraiment l'écoulement de sang, il y avait des victimes lors le chef de collectivité a descendu cela. Si la coutume de la République démocratique du Congo n'est pas respectée, c'est par manque de la loi parlementaire. Mais nous avons les articles et non la loi. Raison pour laquelle nous adressons la motion aux parlementaires à travers l'honorable Jean-Marc Kabund Akabund, l'honorable Ntambwe Eliezer, l'honorable Essingi Pululu, l'honorable Ariette Wamu et autres.
Le chef Wilbert Kyungu dit fustiger la manipulation de la coutume congolaise par les politiciens. Le budget que l'État congolais a proposé à l'ANATC n'a jamais été débloqué, dit-il. Cette institution coutumière n'a donc pas les moyens adéquats pour continuer à régler les conflits coutumiers à travers la République, a-t-il conclu. Sport, Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2022. Le coup d'envoi sera donné demain dimanche 9 janvier et la compétition ira jusqu'au dimanche 6 février 2022. Cette 33e édition connaîtra la participation des 24 nations réparties en 6 groupes de 4 équipes. Éliminés de la course, le pays des Léopards, la République démocratique du Congo, ne prendra part à cette fête africaine. Les détails sur cette compétition avec Vanessa Kongolo.
Prévue pour l'année 2021, l'organisation de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été décalée pour raisons sanitaires liées à la COVID-19. Bien que maintenue pour être organisée en 2022, cette compétition a connu plusieurs menaces d'annulation de la part de la FIFA et certains clubs européens qui ne voulaient pas libérer les internationaux africains à cause de la propagation du variant Omicron. Cette phase finale se déroulera dans 6 stades du pays, dont 2 à Yaoundé, 1 à Douala, 1 à Limbé, 1 à Mafoussam et 1 autre à Garoua. L'accès dans les stades est conditionné par la vaccination. Les stades seront remplis à 60% de leur capacité. Les pays organisateurs, le Cameroun est logé dans le groupe A et joue son premier match le dimanche 9 janvier face au Burkina Faso. Le même jour, l'Éthiopie va en découdre avec le Cap-Vert. L'Algérie tenant du titre est dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone et la Guinée équatoriale.
Actualité, Afrique monte.
Nous sommes en Éthiopie. Le gouvernement gracie plusieurs opposants, ceux en vue d'entamer un dialogue national inclusif. Parmi les personnes graciées, Jawar Mohamed ou encore Eskinder Nega, le parti de ce dernier a célébré cette libération en postant une photo de lui devant la prison où il était incarcéré, selon Addis Abeba. L'objectif est d'ouvrir la voie à une solution durable au problème de l'Éthiopie de manière pacifique et non violente. Le trafic aérien en Chine ne reprendra pas avant 2023. C'est pour contenir la pandémie à coronavirus, a annoncé hier l'administration de l'aviation civile chinoise. Le trafic aérien en Chine sera encore pénalisé cette année par la crise sanitaire. Les efforts du pouvoir chinois vont se concentrer en 2022 sur la maîtrise de la pandémie en poursuivant la politique du zéro Covid. Pékin entend développer son trafic aérien lors des 2 prochaines années. Cette politique s'est intensifiée à la proche notamment des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, a lancé hier à Bunia le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en Ituri. Il nous parle ici de l'importance de ce programme pour la restauration d'une paix durable dans l'Ituri et la nécessité de l'implication de tous les fils et filles de cette province pour la réussite de ce programme. Le vice-ministre des Affaires étrangères s'entretient avec Isaac Remoyope.
Le vice-ministre des Affaires étrangères en RDC, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez lancé ce vendredi le programme PDDRCS. Quel sens vous donnez à cette journée qui marque le début de ce processus?
La journée, elle reste une journée historique. On telle enseigne que, vu tout ce qui se passe en Ituri, avec des problèmes impossibles liés à la sécurité, moi je pense que c'est une journée qui marque un événement inoubliable dans les chefs des fils et filles ituriens.
Le lancement de ce programme a été suivi par un atelier de réflexion stratégique. Quelle est l'importance que vous donnez à cet atelier?
Le coordonnateur lui-même qui est en train de diriger cet atelier et c'est lui aussi le gestionnaire du programme. L'importance qu'on donne à cet atelier où c'est pour dévoiler le contenu du programme. Les ituriens ne peuvent pas consommer un programme qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Raison pour laquelle il fallait nécessairement qu'ils se prennent du contenu du programme et pour qu'après qu'ils puissent l'approprier pour faciliter son déroulement et sa mise en application. Ce programme a une différence par rapport à d'autres qui ont précédé. On n'imposera pas une quelconque activité de Kinshasa ici. Les activités viendront de la base, raison pour laquelle les recommandations sont les bienvenues pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs du passé avec la fameuse Tarek. J'ai un très mauvais souvenir de ce programme ainsi que ces années animateurs ainsi que de certaines autorités provinciales. Ils ont très mal géré ce programme et cela a eu comme conséquence aujourd'hui on n'était pas en mesure même de récupérer nos frères qui étaient déjà prêts à déposer les armes. Mais avec ce programme, c'était programme correctif et intégré dans le cadre de développement de notre province.
Certaines opinions pensent que cet atelier pourra plutôt servir de plaidoyer pour la mobilisation des fonds. Est-ce que c'est le cas ou bien les fonds sont déjà disponibles?
Le chef de l'État a créé ce programme sous l'ordonnance présidentielle. Ce n'est pas quelque chose créé pour le plaisir. Et ce programme pourra accompagner l'état de siège et à matérialiser effectivement la pacification et la paix durable que les fils et filles ituriens entendent du chef de l'État et de nous-mêmes. Raison pour laquelle, tout autour de ce programme, nous devons tous nous mettre ensemble pour l'accompagner et afin que nous puissions atteindre l'objectif tant attendu. La paix en Ituri ne pourra venir de nulle part, ça pourra venir de nous-mêmes. Et nous connaissons pourquoi cette guerre persiste, parce que jusque-là, nous ne sommes pas ouverts notre cœur. C'est le moment d'en profiter pour qu'on arrive à mettre fin à ces violences qui endeuillent l'Ituri. On en a marre. Et même mes frères qui ont pris les armes, je pense que c'est le même programme qui est attendu. À conséquence, pour moi, c'est déjà la porte salutaire pour que l'Ituri ait vraiment, vraiment la paix.
Comme vous le savez, il y a notamment les problèmes de complicité, de communautarisme des groupes armés. Et quelle est la responsabilité du peuple iturien pour que la paix devienne une réalité en Ituri?
Quand moi je suis arrivé, c'était parmi mes premières activités. Je suis allé maison par maison voir les notables qui ont l'opinion au sein de leur communauté respective. J'ai échangé avec eux. Dieu merci, chacun est prêt à accompagner le programme. Deuxième phase, j'ai eu à récupérer les notables au sein de la plateforme communautaire qu'on appelle INADI. Mon message était clair. Chers notables ituriens, les politiciens ont l'habitude de politiser cette plateforme appelée INADI qui constitue les 21 ethnies. Cette fois-ci, c'est le moment exceptionnel. Faisons de l'INADI une structure apolitique. Même si vous avez une appartenance politique, vous les mettez de côté pour la paix, rien que pour ça. C'était ça le message, pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs du passé. Quand il y a un problème qui ne marche pas dans l'aspect politique, moi, en tant que politicien, vous allez voir, je viens déstabiliser l'Ituri à travers ma communauté. Et c'est ça le mal iturien. Nous devons quitter de l'hypocrisie iturienne et dire certaines vérités. Vous allez voir, tout ce que nous sommes en train de connaître sera stoppé et nous allons vivre la paix durable comme ça se passe ailleurs.
Le vice-ministre des Affaires étrangères, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, le vice-ministre Sami Adubango, répondait aux questions de Isaac Remoyope. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.